Et ce matin, Bertrouen, nous recevons Arnaud Zaccari.
Oui, c'est le secrétaire général du Centre National de la Coopération au Développement, le CNCD 11-11-11. Bonjour Arnaud Zaccari.
Bonjour.
On va parler du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, en anglais le TTIP. Vous en avez déjà sans doute entendu parler, ce traité de libre-échange que la Commission européenne négocie pour l'instant avec les États-Unis. Vous dénoncez aujourd'hui, Arnaud Zaccari, avec une série d'autres organisations, les mutualités, les syndicats, test-achat, c'est devenu un sujet assez sensible. Alors vous dites que cet accord, ou ces accords, parce qu'il y en a plusieurs, on va en parler, seront mauvais pour l'Europe, mais la Commission européenne qui les négocie, elle dit l'inverse. Elle dit par exemple qu'il y aura plusieurs millions d'emplois créés en Europe, sur 10 ans, hein, mais enfin plusieurs millions d'emplois créés en Europe. Est-ce qu'elle ment, la Commission européenne, quand elle dit ça ?
La Commission européenne, elle a commandité une étude, un think tank basé à Londres qui s'appelle le CEPR, qui, pour information, est présidé par le vice-président de Goldman Sachs et financé par toute une série de grandes banques. Mmh. Et cette étude a conclu que cela créerait 0,5% de croissance d'ici à 2027, donc sur 10 ans, 0,05% de croissance, et que cela provoquerait des gains de 545 euros par
ménage.
Ménage.
Ce qui n'est pas rien, quand même.
De Guc, à l'époque, a dit, oui, mais ça, c'est le
Karel De Guc, l'estimation qui a lancé
pessimiste.
La négociation.
En réalité, on a été voir l'étude. En fait, c'était la vision optimiste, hein, la vision pessimiste. C'est seulement 41 euros par ménage. Mais plus largement, ce qui est important à dire, c'est que d'une part, depuis lors, toute une série d'études, et notamment une thèse américaine, a remis en question la méthodologie de l'étude du CEPR retenue par la Commission européenne, aboutit à des résultats très différents, entre 0,3 et 0,5% de croissance en moins pour l'Europe,
donc,
600 000 emplois en moins.
Vous basez sur une étude, et c'est notamment pour ça qu'il y a mobilisation aujourd'hui, c'est ce que vous allez présenter, sur une étude en l'occurrence, qui dit que ça aurait plutôt un effet négatif pour l'Europe et pour la Belgique.
Donc il dit qu'en termes de croissance et d'emploi, ça sera des pertes pour l'Europe et pour la Belgique. Ceci dit, il ne faut pas tomber dans le piège de ces débats entre méthodologies. Hein, donc l'étude du CEPR se base sur une méthodologie qui se base sur le plein emploi, donc sur l'allocation optimale des ressources, comme on dit. On sait très bien qu'on est dans un taux de chômage très important. On peut trouver des faiblesses dans l'étude de la thèse américaine. La réalité, c'est que d'une part, c'est très difficile d'estimer les gains et les pertes en termes d'emploi et de croissance, puisque le TTIP est en train d'être négocié. Ce qui est encore plus important à dire, c'est que dans toutes les études, on constate qu'il y a des gains et des pertes et une redistribution des richesses entre les différents types de pays et d'acteurs économiques. Oui. C'est-à-dire qu'en Europe, il y aurait plutôt des gains.
Qui perdrait, qui gagnerait, selon vous ?
Ceux qui vont y gagner, ce seront les pays les plus riches d'Europe du Nord, généralement, et les pays d'Europe du Sud vont y perdre. Surtout, ce sont les grandes firmes transnationales qui vont y gagner, les PME vont y perdre. C'est notamment pourquoi l'Union des classes moyennes en Belgique est très critique vis-à-vis du TTIP. Ce sont les revenus du capital qui gagneraient plutôt que les revenus du travail, ou l'agro-business plutôt que les filières courtes.
Ouais. Bref. Donc, vu de gauche, si je le prends, vous dites que ce n'est pas un problème de méthodologie, si on en fait un problème politique, alors vu de gauche, c'est très mauvais ce qui est en train de se négocier.
Mais vu de gauche ou de droite, je suppose qu'à droite,
plus d'inégalités sociales.
85% des nouveaux emplois créés en Europe au cours de la dernière décennie sont le fait des PME. Donc je ne sais pas si c'est de gauche ou de droite de dire il faut soutenir les PME plutôt que les grands groupes transnationaux qui ont déjà suffisamment de marge de manœuvre pour engranger des profits importants et qui sont une des causes des problèmes de notre société. C'est pour ça, comme je le disais, que l'Union des classes moyennes est très critique, parce qu'on se rend compte que dans la redistribution des richesses entre acteurs, c'est donner encore plus de pouvoir aux grandes firmes transnationales au détriment des PME qui sont pourtant les principales créatrices d'emplois.
Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Voilà, parce qu'on n'a pas encore, de toute façon, le fin fond de la négociation. On parle de quoi ? De réglementation, par exemple, le prix unique du livre, de réglementation sur la manière dont on clore ou pas les poulets. C'est des choses très précises, parce que des barrières douanières, il n'y en a déjà presque plus, Arnaud Zaccari.
C'est ça qui est important.
Donc,
à comprendre,
qu'est-ce qui va changer concrètement
tout
pour
à
nous ?
Fait. Donc, on parle d'accord de libre-échange. En réalité, il n'y a presque plus de barrières tarifaires, hormis dans le secteur agricole, dans les produits laitiers ou les viandes, par exemple. Et on a en moyenne 3,5% de barrières tarifaires aux États-Unis, un peu plus de 5% en Europe. En réalité, on veut créer une convergence réglementaire, donc créer un marché unique transatlantique, un OTAN économique, comme l'a dit Hillary Clinton. Donc l'objectif, c'est justement d'harmoniser toutes les normes. Et là, il faut mettre le doigt sur l'erreur stratégique de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien un problème que connaît l'Union européenne, c'est ses asymétries internes, c'est le manque d'achèvement de la construction européenne. Et c'est en ça que cette coalition, cette campagne de la société civile qui se mobilise à l'échelle européenne, elle est pro-européenne. Elle dit, c'est le TTIP ou le projet européen, il faut choisir.
On ne peut pas faire les deux. Vous dites quoi ? Quand on arrive dans la négociation avec les Américains, alors que nous, on est déjà divisés, on peut que perdre, c'est ça que vous dites.
Dans des secteurs aussi stratégiques que l'énergie, les télécommunications, les transports par rail par exemple, nous n'avons pas de normes européennes. Par contre, les États-Unis en ont, eux, des normes. Et donc, c'est un peu le pot de fer américain contre le pot de terre européen. On va en fait diluer le projet européen dans l'espace transatlantique, d'où le fait que entre le TTIP et le projet européen, il faut choisir. On ne peut pas, d'une part, avancer, parachever la construction européenne en termes d'harmonisation sociale et fiscale, de transition énergétique, de télécommunications, tous ces enjeux tout à fait fondamentaux, et d'autre part, aller négocier ça de manière tout à fait divisée avec les États-Unis qui sont un seul pays, qui ont donc des normes uniques, etc.
Vous dites finalement que l'Europe ne pourrait, selon vous, si je vous entends, quasi que perdre face aux États-Unis, qui auraient tout à y gagner. Mais si on regarde aux États-Unis, il y a aussi beaucoup d'opposition là-bas, et notamment républicaine, qui estime que les Américains risquent d'y perdre parce que il va falloir relever les normes, ce sera plus de régulation. Ce sera mauvais pour le libre-échange. Mmh. Donc, est-ce quelque part, qui a raison ? Est-ce qu'on risque pas plutôt de réguler le marché en concluant un contrat comme ça, Arnaud Zakari ?
Malheureusement non, parce que c'est pas ce qu'on trouve dans les mandats des négociateurs qui sont maintenant connus. Maintenant, c'est clair que donc il y a 2000 organisations de la société civile aux États-Unis qui ont envoyé un courrier à l'administration Obama sur les mêmes positions que la coalition de la société civile ici en Europe. Mais c'est vrai qu'il y a des républicains qui sont contre parce qu'ils se disent par exemple que dans les produits cosmétiques, il y a 1300 normes, 1300 produits chimiques interdits en Europe, il n'y en a que 11 aux États-Unis, donc ils se disent...
On
risquerait d'y perdre, tout comme le Front National ou des partis eurosceptiques sont contre le TTIP pour des raisons nationalistes qui ne sont pas les nôtres. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans une démarche pro-européenne, le TTIP est une erreur stratégique, mais aussi dans une démarche pro-multilatéralisme, parce qu'il faut savoir que le TTIP, il s'inscrit dans une stratégie globale des États-Unis avec ce qu'on appelle le TPP, le traité de Transpacifique, entre les États-Unis et les pays du Pacifique, qui excluent la Chine. Et l'objectif, c'est aussi de contrer la montée en puissance de la Chine, des autres pays émergents qui deviennent des puissances commerciales, en créant un espèce de grand marché transpacifique et transatlantique qui contournerait la Chine. Et ce à quoi on assiste, c'est la Chine qui réagit en créant ses propres coalitions avec les BRICS, avec la Banque africaine, la Banque asiatique de financement des investissements.
Donc il y a une question de... Je vous interromps, mais au-delà des problèmes commerciaux, au-delà des problèmes agricoles, de consommation, il y a aussi un problème de relations internationales derrière cette question.
C'est un projet de société. Si on pense que les deux problèmes sont pour l'Europe... Le projet européen d'adoption de normes communes pour justement se protéger, et que d'autre part qu'il faut régler les grands enjeux mondiaux, le climat en décembre à Paris, le commerce évidemment, la sécurité collective, les questions financières au G20, on a besoin de la Chine et des autres pays émergents, alors il faut une toute autre approche. Le message qu'on envoie avec cet OTAN économique, c'est « the West is against the rest », c'est-à-dire qu'on dit au reste du monde, on va négocier entre nous des normes qu'on va vous imposer ensuite, on va vous imposer notre forme de mondialisation, mais ça c'est pas adapté au monde du 21e siècle. Le monde multipolaire a besoin de multilatéralisme, autrement il risque d'être très instable et très conflictuel.
Rapidement, en 20 secondes, le débat en est où au niveau européen, Arnaud Zakari, maintenant ? Il y a quand même beaucoup d'opposition, de plus en plus. On se dit que c'est quasi morné, non, cette négociation ?
C'est pas morné parce que la coalition européenne tient à ce projet, mais au fur et à mesure qu'on connaît ce qui se trouve dedans, évidemment, les avis évoluent. Là, il y a une résolution qui doit être votée au Parlement européen en juin. On va tout de suite voir les rapports de force. En tout cas, au niveau belge, il y a une résolution qui va être adoptée mercredi au Parlement wallon, par exemple, qui demande la suspension des négociations et la révision du mandat. Il y a aussi une résolution qui a été adoptée au Parlement bruxellois. Donc on voit que ça bouge, y compris dans les États membres. C'est notamment le cas en Allemagne ou en Angleterre, qui sont des pays très pro-TTIP, en tout cas depuis le début des négociations.
Et où ces questions sont très présentes dans le débat public. Merci Arnaud Zakari, secrétaire général du Centre national de coopération et développement, d'avoir été notre invité ce matin.
Merci Bertrand Haine. Si, comme moi, vous avez un peu de mal à vous réveiller ce matin, restez bien à l'écoute, le café serré arrive tout de suite.
Matin première, jusqu'à 9h.